Il est 8h sur France Culture. L'heure du journal avec vous, Anne Fauquemberg. Bonjour.
Bonjour Lucas, bonjour à tous. Donald Trump provoque une nouvelle vague d'indignation aux États-Unis. Hier soir, il a encore renvoyé dos à dos la droite suprémaciste et les militants antiracistes 4 jours après le drame de Charlottesville. Précision de Marco Voltaire à New York au début de ce journal.
En Afghanistan, les autorités comptent doubler leurs troupes d'élite d'ici 3 ans, conséquence de l'insécurité et d'un possible retrait américain du pays. Sonia Ghezali s'est rendue dans un centre d'entraînement spécialisé près de Kaboul. Au reportage dans un instant.
C'est le plus important accord de libre-échange du continent américain. L'ALENA se renégocie à partir d'aujourd'hui entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Marie-France Abastado va nous en expliquer les raisons.
En France, la manifestation des antinucléaires hier à Bure dans la Meuse a dégénéré. Nous nous demanderons si le mouvement contre le centre d'enfouissement des déchets nucléaires n'est pas en train de se radicaliser.
Enfin, la rentrée scolaire aura-t-elle lieu vendredi comme prévu sur l'île de la Réunion ? Rien n'est moins sûr. Les maires du département protestent toujours contre la suppression d'environ 1 000 000 de contrats aidés, dont bon nombre nécessaires aux écoles. Donald Trump ravive la polémique sur les violences de Charlottesville le week-end dernier en Virginie. Une jeune militante antifasciste tuée par un sympathisant néo-nazi en marge d'un défilé de l'extrême droite. Le président américain avait pourtant condamné le racisme lundi dernier depuis la Maison-Blanche, mais hier, il a renvoyé les deux camps dos à dos, Marco Voltaire.
Avec cette volte-face, Donald Trump a donc décidé de continuer à jouer avec le feu. Jusque-là, le président avait soigneusement évité les questions des journalistes sur Charlottesville. Mais cette fois, à la Trump Tower, il a décidé de répondre dans une ambiance chaotique. Et voilà le résultat.
J'ai regardé de très près, beaucoup plus attentivement que vous. Vous aviez un groupe d'un côté qui était agressif, et vous aviez un groupe de l'autre côté qui était aussi très violent. Personne ne veut le dire, moi je le dis.
Donald Trump a ensuite expliqué que parmi les manifestants, tous n'étaient pas des suprémacistes blancs. Loin s'en faut, a-t-il précisé, avant d'aller encore plus loin, il y avait des gens bien des deux côtés. L'ancien leader du Ku Klux Klan, David Duke, s'est empressé de saluer ses propos et de féliciter le président pour son courage. Alors que du côté des républicains, le malaise continue à s'emparer des plus hautes sphères du parti. Paul Ryan, le chef des républicains au Congrès, a tweeté « Nous devons être clairs, les suprémacistes blancs sont répugnants. Il ne peut y avoir d'ambiguïté morale. »
Reportage de notre correspondant à New York, Marco Voltaire. En Afghanistan, 40% du territoire est désormais disputé ou sous le contrôle des insurgés talibans et des autres groupes armés. Les États-Unis travaillent à une nouvelle stratégie dans le pays. Tout est ouvert, de l'envoi de plusieurs milliers de soldats jusqu'au retrait. Alors les autorités de Kaboul prennent les devants. Elles comptent ainsi doubler leurs effectifs en forces spéciales dans la police et dans l'armée. Ces troupes d'élite vont ainsi passer de 21 000 à 32 000 agents au cours des 3 prochaines années, avec évidemment des enjeux de formation. Sonia Ghezali, vous vous êtes rendue en périphérie de Kaboul, où sont entraînées justement ces forces spéciales.
Dans le camp Moorhead, les détonations et les tirs retentissent durant plusieurs heures chaque jour. Lance-roquettes, lance-grenades, mitrailleuses, c'est ici que sont entraînés les meilleurs recrues de l'armée afghane comme Mohamed. Les premières semaines sont très intenses et demandent beaucoup d'énergie. On doit tirer avec des armes qui pèsent très lourd. Le jeune homme était tailleur il y a encore 3 mois avant d'entrer dans l'armée et d'être sélectionné pour intégrer les commandos, étape préliminaire à l'intégration des forces spéciales. L'unité d'élite est réputée dans toute la région. Après 14 semaines d'entraînement, suivie d'expériences de terrain puis d'une nouvelle session de formation, Mohamed pourra intégrer les forces spéciales comme Najib.
Les commandos sont mieux entraînés. Ils ont de bons entraîneurs, de très bonnes armes. C'est tout cela qui fait qu'ils remportent toutes les batailles.
Appelés sur les attaques terroristes, dont les complexes, celles qui durent plusieurs heures avec plusieurs insurgés, les forces spéciales afghanes ont été particulièrement sollicitées ces derniers mois. Les insurgés talibans et autres comme le groupe État islamique ayant multiplié leurs attaques. Le général Waziri est le porte-parole du ministère de la Défense.
Nos forces spéciales et nos commandos sont très fatigués parce qu'ils se battent contre une vingtaine de groupes terroristes. Ils peuvent être déployés à n'importe quel moment, n'importe où, et ils ne perdent jamais une bataille.
Alors que l'armée régulière afghane est souvent pointée du doigt pour les défections en masse dans ses rangs, pour sa faiblesse, les forces spéciales déployées en province pour combattre les insurgés jouissent d'une aura toute particulière. « Nous allons gagner la guerre », scandent les jeunes recrues à l'issue de leur entraînement.
Reportage près de Kaboul de notre correspondante Sonia Ghezali. 28 morts, 80 blessés, le nord-est du Nigeria, de nouveau frappé par un triple attentat suicide. Trois femmes kamikazes se sont fait exploser dans la ville de Mandarari, dans l'état du Borno, près du lac Tchad. Le district est régulièrement la cible d'attaques du groupe djihadiste Boko Haram. En Tunisie, une loi ambitieuse contre les violences faites aux femmes a été adoptée le mois dernier et le pays, qui a toujours été à la pointe de l'égalité entre les genres dans le monde arabe, vient aussi de mettre en place une réflexion sur l'égalité en matière d'héritage. Le président de la République, Beji Caïd Essebsi, a publiquement demandé la mise en place de mesures plus volontaristes dimanche dernier. Les associations féministes saluent le discours. Elles attendent maintenant la loi, Justine Fontaine.
Aujourd'hui, si la famille l'accepte, la loi tunisienne rend possible l'égalité dans l'héritage. Mais le texte n'est pas satisfaisant selon Monia Benjemia, juriste et présidente de l'Association tunisienne des femmes démocrates, dont les militantes plaident depuis près de 20 ans pour l'égalité dans l'héritage.
Après la mort des parents, les héritiers peuvent s'entendre pour partager de manière égale. Mais il suffit qu'il y en ait un qui s'oppose au partage égal pour qu'on revienne donc au texte du code du statut personnel, et le partage se fait de manière inégalitaire. Sur le plan symbolique, ça signifie que la femme vaut la moitié de l'homme et c'est inacceptable.
Une proposition de loi sur ce sujet a été déposée à l'Assemblée l'an dernier, mais l'accueil avait été plutôt froid, notamment dans les rangs du parti islamo-conservateur Ennahda, majoritaire au Parlement. Aucune date n'avait d'ailleurs été fixée pour l'examen du texte en séance plénière. Pour Monia Benjemia, cette initiative a malgré tout pu jouer un rôle positif.
Alors que pour la proposition qui avait été faite par des députés, ils ont tout de suite dit non, c'est pas le moment, vous allez exciter des terroristes. Et là, ils disent oui, il faut débattre de la question. Et je pense qu'elle a mûri dans l'esprit des décideurs, en tout cas. Et moi, je suis optimiste. Je pense qu'on va y arriver.
La majorité des Tunisiens sont opposés à une telle loi. Pourtant, Monia Benjemia pense que certains partis pourraient vouloir donner des gages à l'électorat féminin en vue des élections municipales de décembre, premier scrutin local depuis la révolution de 2011.
Explication à Tunis de Justine Fontaine. C'est aujourd'hui que s'ouvre à Washington la première ronde de renégociation de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Cet accord, entré en vigueur il y a 23 ans, a permis d'abolir la plupart des barrières douanières entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Mais l'ALENA est controversé et pour le président américain Donald Trump, cet accord est même un désastre. Explication Marie-France Abastado.
Pendant la campagne électorale, Donald Trump en avait fait la promesse. Il allait renégocier l'ALENA et s'engageait même à déchirer l'accord s'il n'était pas réformé à son goût. Grâce à cette négociation qui débute aujourd'hui, le président américain souhaiterait dans un premier temps retrouver un équilibre dans la balance commerciale avec le Mexique. En un quart de siècle, celle-ci est passée d'un excédent de 1,3 milliard de dollars à un déficit de 64 milliards. Du côté canadien, ce sont d'autres enjeux qui sont en cause. Parmi ces revendications, le Canada réclame que soit maintenu le mécanisme de règlement des différends que Washington souhaitait abroger. Les États-Unis veulent de leur côté que le Canada mette fin à son système de gestion de l'offre dans les secteurs du lait et de la volaille, qui jusqu'à présent ont échappé au libre-échange, puisque le Canada réglemente les prix et impose encore des taxes dans ce domaine. Mais, dit Raymond Bachand, négociateur en chef pour le Québec, les États-Unis savent très bien qu'ils ne peuvent pas remettre en question toutes les façons de faire dans le domaine agricole.
Les pays ne veulent pas se mêler de la façon dont un autre pays gère son agriculture parce qu'ils seraient obligés d'accepter qu'on se mêle de la leur. Alors, s'ils veulent mettre sur la table leur farm bill, toutes les subventions qu'ils ont à leur milieu agricole qui sont considérables, et ils ont aussi des mesures protectionnistes dans plusieurs États, alors ils feront pas ça. Ce qu'ils vont essayer de faire, c'est d'avoir un accès accru au marché canadien.
Un sujet toutefois sur lequel tous les partenaires s'entendent, c'est la nécessité de moderniser cet accord conclu avant l'arrivée d'Internet. Cette première ronde de négociation qui commence demain s'étalera sur 4 jours. Une deuxième ronde débutera le 5 septembre.
8h09 est la suite du journal d'Anne Fockenberg à Bure. La manifestation d'hier contre le centre d'enfouissement des déchets nucléaires a tourné à l'affrontement entre manifestants et forces de l'ordre.
Des incidents et des blessés en marge de la mobilisation qui a réuni plusieurs centaines de personnes. Les militants antinucléaires parlent de 6 blessés graves. La préfecture de la Meuse ne confirme que 3 prises en charge par les pompiers et souligne que 2 gendarmes ont été blessés par un engin artisanal lancé par les opposants. La manifestation s'est terminée en affrontement dans le petit petit village de Saudron en fin d'après-midi. Alors cela fait 20 ans que dure la contestation des antinucléaires à Bure et le mouvement semble actuellement se radicaliser, Sandy Dauphin.
Des jets de projectiles d'un côté, gaz lacrymogène, lanceurs d'eau, grenades assourdissantes de l'autre, un cortège qui se disperse à travers champs. Annie est une habituée des manifestations, elle a préféré partir avant la fin, mais pas question pour autant de condamner l'action des militants les plus virulents, masqués, vêtus de noir, souvent plus jeunes.
Moi je suis de plus en plus partagée par rapport à ça, parce que je trouve qu'il y a tellement une grosse répression que... Je finis par les comprendre. Style les médias, s'il n'y a pas ce genre de spectacle, rien n'est dit dans les médias. Quoi.
La préfecture de la Meuse et les militants antinucléaires se rejettent la responsabilité sur ces affrontements. Michel, nom d'emprunt, est l'un des opposants.
Où est-ce qu'elle est la violence? Qu'est-ce que c'est quelques jets de pierre face à leur arsenal répressif sur un territoire qu'on a sacrifié à la poubelle nucléaire? Quand on nous traite de cagoulés, ça nous fait bien rire en fait. C'est un leurre en fait.
Cette manifestation n'est qu'une facette de la mobilisation contre le projet Cigéo.
On a toujours voulu articuler les recours juridiques, les manifestations, les festivals, continuer nos projets agricoles, nos projets d'implantation ici. Quoi.
Hier soir, une fois le calme revenu, une partie des manifestants sont retournés dans le bois Le Jus qu'ils occupent, tandis que les gendarmes continuaient de surveiller les bâtiments de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs à Bure.
Reportage de Sandy Dauphin. La rentrée sera-t-elle repoussée sur l'île de la Réunion? Rentrée normalement prévue dans 2 jours, vendredi 18 août. Les maires de l'île se réunissent aujourd'hui pour prendre une décision après la suppression d'une grande partie des emplois aidés du département d'outre-mer, des emplois nécessaires au bon fonctionnement des écoles. La préfecture a fait un geste la semaine dernière en accordant 2800 contrats aidés sur les plus de 3000 réclamés. Insuffisant, estiment les élus. Fiona Mogadam.
Les maires de La Réunion réclament 3298 contrats aidés pour cette rentrée scolaire. À Saint-Denis, par exemple, ce sont 300 agents qui sont ainsi recrutés sur les 1500 qui travaillent dans les écoles. Erika Barrette, c'est députée de La Réunion et conseillère municipale de Saint-Denis.
Ces personnes participent aux fonctions de restauration scolaire. Ils participent à l'hygiène et la sécurité, aux activités périscolaires. Et dès lors que leur effectif est diminué de façon brutale, ça pose un véritable problème sur la sécurité, l'hygiène et la qualité de l'accueil des enfants.
Si la députée reconnaît qu'à terme le système doit être amélioré, elle déplore une casse du gouvernement. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a récemment jugé ces contrats coûteux et inefficaces contre le chômage. Pour Erika Barrette, ils sont indispensables à La Réunion, où le taux de chômage était de 22% l'an dernier.
Nous avons une croissance importante, puisque nous avons créé l'année dernière plus de 4700 emplois, mais nous avons une croissance de la population qui est aussi active, puisqu'elle est de plus de 6000 par an. Avec cette différence, il nous reste toujours des gens qui ne peuvent pas trouver d'emploi malgré le dynamisme économique. Donc les contrats aidés ont toujours été un moyen de répondre à un souci d'insérer les gens dans une démarche professionnelle.
Les maires de La Réunion rendront donc leur décision aujourd'hui. À Saint-Denis, on s'oriente plutôt vers le maintien de la rentrée scolaire.
Précision de Fiona Mogadam. Au moment où Gérard Collomb annonce plus de moyens pour la police nationale dans le journal Le Figaro de ce matin, avec notamment la création de 10 000 postes pendant le quinquennat, initiative originale de l'Union des policiers nationaux indépendants ce matin. Cette association asyndicale et apolitique lance un concours photo pour dénoncer les conditions de vie dans les commissariats. L'idée a germé en plein été et pourtant les témoignages affluent et ne manquent pas, comme le résume Nathalie, l'une des policières de l'association qui ne souhaite pas donner son nom.
Quand on parle de locaux insalubres, y a les canalisations qui remontent à la surface, par exemple. Donc nous, on en fait les frais, nous, policiers, mais le public également. On peut aussi, j'ai évoqué dernièrement un véhicule qui avait un problème de clim, la porte en est tombée. Donc les collègues se sont retrouvés avec un véhicule sans porte arrière-gauche. Il peut y avoir un système de radio qui ne tienne pas dans la voiture. Les collègues ont dû s'approprier du scotch avec leurs denrées propres pour le maintenir au véhicule. Mais tout ce qu'on peut retenir, c'est qu'aujourd'hui, le policier n'a ni les collègues qu'il faut en nombre, ni l'armement nécessaire, ni les véhicules, ni tout ce que vous pouvez imaginer pour effectuer les missions, le métier de policier.
Des propos recueillis par Pierre Coquelin.
Lord Almighty,
Et clin d'œil au King pour refermer ce journal. 40 ans, jour pour jour, qu'Elvis Presley est mort. Près de 20 000 fans venus du monde entier sont en ce moment réunis au cœur de la nuit à Memphis, dans le Tennessee. C'est là que repose la légende du rock'n'roll, extrait de Burning Love, réarrangé par l'Orchestre Philharmonique de Londres en 2015. Le temps de ce mercredi, ciel globalement nuageux avec des averses sur les reliefs dans le Massif central et les Pyrénées. Encore quelques bandes brouillard de la Bretagne au Hauts-de-France, temps plus lumineux du Golfe du Lion aux Alpes et les températures. 18 à Cherbourg, 20 à Paris, 21 à Bordeaux, 22 à Strasbourg, 25 à Lyon, 28 à Marseille. Lucas Manger.
Merci Anne Falkenberg. On vous retrouve à 9h pour un prochain journal.